pour l'instant, à 10h10, et c'est Juan Gomez que vous retrouvez.
Merci Mickaël Ponge, reste avec nous, RFI vous donne la parole.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez, bienvenue sur notre antenne. Comme tous les matins, vous pourrez commenter l'actualité. Nous allons ce matin nous intéresser au plus gros scandale de ces dernières années en Afrique du Sud. 15 millions d'euros, c'est la somme dépensée par le président Jacob Zuma pour rénover sa résidence privée. Mais une partie de cet argent, c'était de l'argent des contribuables qui a donc servi notamment à construire un amphithéâtre, un poulailler, même une piscine. Zuma, ces dernières années, se croyait intouchable, mais la semaine dernière, la Cour constitutionnelle a ordonné au chef de l'État de rembourser une partie de cette somme. Nous attendons évidemment vos réactions et vos commentaires. Et plus grave encore, Jacob Zuma a été reconnu coupable d'avoir violé la Constitution. Alors, quelles conséquences politiques pour le président Zuma ? Doit-il démissionner, comme l'exige aujourd'hui l'ensemble des opposants sud-africains ? Doit-il être destitué ? 33 9 693 693 70, 09 693 693 70, si vous nous appelez de France. Et vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Beaucoup de réactions postées. J'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure pour alimenter le débat. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on va justement commencer avec des questions sur le président sud-africain Jacob Zuma. Bonjour Adama.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Ouagadougou, au Burkina Faso, nous vous écoutons.
Bonjour d'abord aux auditeurs de RFI et bonjour aussi à mes amis de Zouzouland. Voilà, j'ai appris sur les antennes de la radio mondiale que la justice sud-africaine avait intimé l'ordre au président Zuma de rembourser une partie des fonds investis dans la rénovation de sa résidence privée. À ce sujet, j'ai deux interrogations à vous soumettre. La première est pourquoi c'est seulement une partie des fonds qui doit être remboursée. Et pourquoi est-ce que, le président Jacob Zuma dispose de combien de temps pour s'exécuter ?
Alors, c'est vrai qu'il ne va pas rembourser la totalité des fameux 15 millions, mais seulement une partie de cette somme. Bonjour Alexandra Branjon.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la correspondante permanente d'RFI en Afrique du Sud. Déjà, peut-être, on peut revenir en quelques mots sur cette affaire qui est connue sous le nom de Nkandla, ce village du KwaZulu-Natal où se trouve justement la propriété du président Zuma. Il s'agit donc de l'utilisation de plus de 15 millions d'euros de fonds publics pour rénover la propriété privée du président de la République.
Oui, tout à fait. Officiellement, il s'agit de travaux qui sont liés à la sécurité du chef de l'État et donc ont été payés par le gouvernement. Il y a 2 ans, plusieurs plaintes ont été déposées et la médiatrice de la République, qui est chargée de veiller sur l'argent public, a mené une enquête pendant plusieurs mois et elle a conclu que le président avait indûment bénéficié de ces travaux. C'est-à-dire qu'il a fait un certain nombre de travaux qui n'avaient rien à voir avec sa sécurité. Par exemple, une piscine, il a construit une piscine, un amphithéâtre, un centre de visiteurs. Le gouvernement a tout fait pour éviter que ce document soit rendu public. Ensuite, ils ont tenté de justifier les travaux. Il ne s'agit pas d'une piscine, mais d'un bassin de rétention d'eau. Ensuite, le gouvernement a tenté de faire croire que le chef de l'État n'était pas au courant de tous les travaux, qu'il ne les avait pas approuvés. Bref, ça s'est terminé devant la justice et c'est allé jusqu'à la Cour constitutionnelle, donc la plus haute cour du pays. Et là, en effet, jeudi dernier, la Cour a ordonné au chef de l'État de rembourser une partie des frais. Pourquoi une partie ? Parce qu'il y a tout de même une partie de ces travaux qui ont été effectués pour sa sécurité. Et donc, il ne va rembourser que les travaux liés à son confort, donc la piscine, l'amphithéâtre, voilà, ce genre de choses.
Et le poulailler également. De combien de temps dispose Jacob Zuma pour rembourser ?
Concrètement, la Cour a donné 60 jours au ministère des Finances pour lui communiquer la somme à rembourser. Donc 60 jours à partir de jeudi dernier. La presse estime que ça pourrait être de l'ordre des 10 millions d'euros. Et ensuite, une fois que cette somme a été communiquée, le président Zuma a 45 jours pour rembourser l'État. 45 jours. Alors évidemment, c'est une victoire, puisque qu'une cour puisse forcer un chef d'État à rembourser de l'argent du contribuable qu'il a utilisé à des fins personnelles, C'est une victoire pour la justice, pour les institutions anticorruption, pour le bureau de la médiatrice de la République, hein, Tuli Madonsela, c'est son nom, qui pendant 2 ans s'est fait malmener, voire même insulter par le parti de Jacob Zuma. Et puis une victoire pour la société civile qui a poussé pour que cette affaire ne soit pas enterrée. Ce qu'il faut voir, ce sont les implications. Vous le disiez tout à l'heure, hein. Au-delà de rembourser l'argent, la Cour a quand même conclu que le chef de l'État avait enfreint la Constitution en refusant de rembourser. Et ça, c'est pas rien. Depuis la semaine dernière, une partie du pays appelle à sa démission, y compris dans son propre parti, des poids lourds de la lutte anti-apartheid. Des gens comme Ahmed Kathrada, qui étaient des compagnons de lutte de Nelson Mandela, ont appelé à ce que le chef de l'État ait un peu de dignité et démissionne.
Alors, vous parliez justement de ces nombreux appels à la démission. Signalons tout de même que l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition, a lancé une procédure de destitution contre le président Zuma. Bonjour Barry.
Bonjour Juan.
Bienvenue, vous nous appelez de Conakry. Vous avez justement une question sur cette procédure de destitution.
Oui, tout à fait Juan. J'aimerais savoir si le président peut-il être destitué. Et quel est le rôle du Parlement dans cette affaire ?
Alors, c'est demain, Alexandra Branjon, que l'Assemblée nationale débattra de cette motion contre le président Zuma. Concrètement, quelles sont les chances de l'opposition ?
Aucune. Bon. Aucune chance de passer parce qu'il faut les 2/3 des votes de l'Assemblée et que le parti de Jacob Zuma est majoritaire au Parlement et surtout qu'il le soutienne bec et ongle. À travers toutes ces démêlés vis-à-vis de la justice, ils l'ont soutenu jusqu'au bout. Mais au-delà de ça, c'est le message que cette affaire envoie. C'est un président qui est embourbé dans des scandales. Ça va être la 3e motion de défiance. Donc c'est quand même un sacré revers pour ce chef de l'État et un revers pour les députés et les ministres de son parti qui le soutiennent aveuglément. Je vais vous donner une anecdote. L'année dernière, le ministre de la Police a convoqué une conférence de presse pendant laquelle il a diffusé une vidéo dans laquelle on voit des pompiers qui tirent de l'eau de cette fameuse piscine du chef de l'État, le tout avec de la musique classique. Tout ça pour essayer de convaincre les journalistes qu'il ne s'agit pas d'une piscine, mais d'un bassin de rétention d'eau pour la sécurité du chef de l'État. C'était d'un ridicule, les journalistes pouffaient de rire. Et c'est là le problème, c'est la crédibilité de ce chef de l'État, mais également de son gouvernement et de son parti. Et la question est, jusqu'où vont-ils le soutenir, sachant qu'il y a des élections locales dans quelques mois et que l'ANC pourrait bien le payer à cette occasion.
Effectivement, des élections locales dans des villes importantes, hein, comme Johannesburg, le Cap, Pretoria ou encore Durban. Paris nous demandait le rôle du Parlement dans cette affaire. Ce sont les parlementaires qui décideront oui ou non finalement de l'avenir de Zuma, surtout les parlementaires de l'ANC puisqu'ils sont, vous le disiez, majoritaires au sein du Parlement. La prochaine session parlementaire sera houleuse incontestablement et quoi qu'il arrive.
Oui, ce sera demain. Donc, on va voir. C'est un vote ouvert. Hein. Donc la question est-ce que l'ANC, dans son intégrité, va rejeter cette destitution ou est-ce qu'au contraire, quelques parlementaires vont se rallier aux appels de l'opposition et décider de voter sur cette destitution. Bon, ici, peu de gens pensent que ça va arriver. Hein. Je pense que dans la grande majorité, l'ANC va voter contre cette destitution. Juste peut-être une dernière. Première chose, c'est qu'il faut noter que la Cour constitutionnelle, la semaine dernière, a également été très sévère vis-à-vis de ce Parlement, indiquant que les députés avaient failli à leur devoir et qu'ils n'avaient pas demandé des comptes au chef de l'État et qu'ils ne s'étaient pas assurés qu'ils respectent ses engagements. Et là aussi, ça pose de vraies questions sur le rôle et le devoir des députés. Est-ce que c'est respecter la Constitution ou est-ce que c'est être fidèle à leur président ?
On suivra ça évidemment avec vous, Alexandra Branjon, pour donc cette session parlementaire très importante demain en Afrique du Sud. Et vous qui nous écoutez, vous pouvez évidemment réagir sur cette affaire, sur ce scandale qui secoue l'ANC, le parti de Nelson Mandela. D'ailleurs, vous êtes nombreux sur la page Facebook de l'émission à faire référence à Nelson Mandela. Il y a Claude, par exemple, qui nous dit « Tout membre de l'ANC succédant à Nelson Mandela à la magistrature suprême ne doit pas trahir sa mémoire. » Voilà ce qui ressort en substance de nombreuses réactions. « Jugement historique », nous dit Valérie sur Facebook. « C'est la première fois sur le continent africain qu'un président en exercice est jugé et condamné par la justice de son pays. » Nous en parlerons ensemble dans une vingtaine de minutes. 33 9 693 693 70. D'ici là, nous continuons avec vos questions pour bien comprendre l'actualité. Jean, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Vous êtes en région parisienne, nous vous écoutons.
Oui, je voudrais poser des questions. Dans l'affaire de corruption et des trafics d'influence pour avoir voulu percer les secrets d'une procédure à l'aide d'un haut magistrat, la Cour de cassation de Paris a validé les écoutes téléphoniques entre l'ancien président et son avocat Thierry Herzog.
Oui, vous parlez de l'ancien président français Nicolas Sarkozy.
Oui, oui, effectivement. Oui. Alors, je voudrais savoir sur quoi s'est basée la Cour de cassation pour valider ces écoutes. Si cette décision fait jurisprudence, est-ce que cela pourrait remettre en cause le sacro-saint secret professionnel entre un avocat et son client ?
Ah, bonne question. Le sacro-saint secret professionnel entre un client et son avocat a-t-il été bafoué ? En tout cas, de nombreux pénalistes n'hésitent pas à dénoncer une régression du droit après l'arrêt de la Cour de cassation. Frédéric Sicard est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le bâtonnier de Paris. Je rappelle que la Cour de cassation, qui est tout de même la plus haute juridiction, a estimé effectivement que les écoutes téléphoniques entre l'ancien président et son avocat étaient légales. Qu'en pensez-vous ?
Alors, toute la difficulté qu'on a avec ces arrêts, c'est qu'ils viennent faire un contrôle a posteriori, c'est-à-dire que la Cour de cassation est venue approuver les juges du fond d'avoir écouté et d'avoir dit ben, finalement, dans un cas, ça peut être intéressant et dans l'autre cas, ça ne l'est pas. C'est déjà complètement anormal. Et la formule qui vient de tomber dans les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui ne crée pas le droit mais qui l'interprète, c'est de dire, finalement, si vous n'avez pas un acte de procédure pénale, vous n'êtes pas, en tant qu'avocat, couvert par le secret professionnel. Et c'est extrêmement inquiétant parce qu'une lecture littérale des arrêts, ça signifie que si vous êtes avocat en matière civile, et vous savez qu'on peut nous confier des secrets en matière de divorce ou en matière sociale hein, ou en matière des affaires, ces secrets n'existent plus. Et si vous êtes l'avocat régulier, moi je suis pas dans le procès contre M. Sarkozy, c'est pas la question, je dis ni pour ni contre, mais enfin tout le monde sait que
Thierry Herzog,
mon frère Thierry Herzog est depuis très longtemps l'avocat du président de la République. Personne ne s'en est caché. Et donc, si vous je peux quand même écouter, c'est quand même hallucinant. Voilà.
Qu'est-ce qui est hallucinant ?
L'acte,
effectivement.
La Cour vient de dire, on peut écouter un avocat dès lors qu'il n'est pas constitué dans la procédure pénale en tant que tel.
Oui.
Oui, et au moment où il a été écouté, il est bien l'avocat du président de la République, mais voilà.
Ce que dit la Cour, en mots peut-être plus simples pour tous nos auditeurs, c'est que au moment où les écoutes ont été réalisées, Thierry Herzog n'assurait pas la défense de Nicolas Sarkozy. Donc il n'était pas directement, à ce moment-là, son avocat. Oui, non, mais j'essaie de...
Vous n'êtes pas... Oui. Il assure la défense de Nicolas Sarkozy, mais il ne l'assure pas dans le cadre d'une procédure officielle. Donc j'ai le droit de l'écouter. Ouais. C'est ça que ça veut dire.
Ouais. Pour vous, c'est quoi ? C'est une régression du droit en France, comme l'ont dit ces derniers jours, ces dernières semaines, plusieurs pénalistes ?
Mais oui, parce que vous savez, les droits de la défense, c'est d'abord la liberté de pouvoir se confier à un avocat, c'est-à-dire de lui confier ses secrets, ou plus exactement d'ailleurs, de pouvoir échanger avec lui librement. Ne serait-ce que pour qu'on puisse dire à un client, bah, écoutez, non, ça c'est une fausse piste. Ça, vous avez le droit de le penser, mais c'est pas vrai. Il y a un moment, il faut pouvoir partager avec son avocat pour que les choses soient les plus sereines possibles. Si vous n'avez plus le droit de partager sans être écouté, ça veut dire que vous n'avez plus le droit de pouvoir faire confiance à quelqu'un qui est là pour vous défendre. Et donc, l'enjeu du secret, c'est pas le secret en lui-même, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui vous défend, en qui vous pouvez avoir confiance. C'est bien ça l'enjeu. Et ça, c'est une liberté fondamentale très ancienne qui est en train de disparaître.
On précise quand même qu'en France, la justice a le droit d'écouter les conversation d'un avocat et de son client à deux conditions. D'abord que l'avocat lui-même soit soupçonné d'avoir commis une infraction et la deuxième condition, c'est que le bâtonnier de l'avocat en soit informé. L'avocat de Nicolas Sarkozy, lui, estime que la décision de la Cour de cassation risque d'entraîner la condamnation de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'en pensez-vous, Frédéric Sicard ?
C'est effectivement un grand problème, puisque le droit d'avoir un avocat, le droit d'être défendu, qui suppose la protection du secret de l'avocat, fait partie des principes qui sont considérés comme fondamentaux au niveau européen. Il serait quand même dommage que la France soit condamnée au titre de ces principes, en étant un des derniers États qui ne reconnaissent pas la validité du secret professionnel. Parce que dans des pays comme la Tunisie, comme l'Égypte, comme l'Espagne, l'Espagne, comme le Portugal. J'arrête la liste, mais la liste est très importante. Il n'y a aucune difficulté pour la protection du secret professionnel. Ouais. Et la véritable réflexion moderne qu'on aurait dû mener, c'est comment on fait pour neutraliser techniquement les écoutes. Mon prédécesseur avait rappelé que dans l'État de New York, on avait trouvé une solution. Faut pas dire que les Américains soient très libertaires. Or, les Américains ont trouvé une solution pour neutraliser l'écoute de l'avocat, et c'est très précisément ce qui devrait être une réflexion moderne.
D'accord.
C'est une régression des libertés qui est en train d'arriver si on maintient cette solution.
Donc il faut s'inspirer du modèle américain. Merci Frédéric Sicard, bâtonnier de Paris. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à Jean qui nous appelait de la région parisienne. Il est 10h26 à Paris. Une dernière question ce matin. On s'intéresse au Burundi. Après deux assassinats ciblés contre de hauts gradés de l'armée, je rappelle que le Burundi traverse une crise politique depuis maintenant un an, depuis que le président Nkurunziza a décidé de briguer un troisième mandat. Bonjour Baptistin.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes au Bénin, on vous écoute.
Oui, j'aimerais savoir s'il y a un lien entre ces deux assassinats. Comment se fait-il que ces deux hauts gradés de l'armée n'aient pas de garde rapprochée pour leur protection? Et enfin, j'aimerais savoir, peut-on s'attendre à des représailles de l'armée burundaise? Bonne journée à vous.
Bah surtout, ne raccrochez pas. Esdras Dikoumana, qui est notre correspondant dans la région, est en direct avec nous. Bonjour Esdras.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde.
Alors, deux assassinats. D'abord, celui d'un lieutenant-colonel qui a été tué au cœur même de l'état-major de l'armée à Bujumbura. Et puis, quelques heures plus tard, c'est un major qui est, lui, mort dans une attaque dans le centre de la capitale. Y a-t-il un lien entre ces deux assassinats ciblés?
Bon, voilà. Alors, très clairement, l'assassinat du lieutenant-colonel Darius Ikurakure, qui a été revendiqué au bout de deux jours, donc c'est-à-dire il y a deux semaines, par les Forebo, ce sont les forces républicaines du Burundi. C'est une nouvelle rébellion constituée essentiellement d'ex-soldats et de policiers qui dit se battre pour restaurer la démocratie au Burundi. Eh bien, ils ont expliqué que leur objectif était d'éliminer le colonel Darius parce que il lui reprochait d'être un des responsables de la très sanglante répression qui est en cours au Burundi. Il lui reproche notamment beaucoup de disparitions et d'assassinats de nombreux jeunes dans les quartiers contestataires de Bujumbura. Alors, en ce qui concerne l'assassinat du major Didier Moïmundu, quelques heures plus tard, c'est un parfait inconnu, eh bien, officiellement, on s'est gardé de lier les deux crimes, mais de nombreux observateurs estiment qu'ils sont liés, car depuis le début de la crise, l'assassinat d'un haut responsable, qu'il soit civil ou militaire, qui est proche du pouvoir burundais, a été suivi systématiquement de celui d'un autre responsable de rang équivalent qui est lié à l'opposition, à la communauté Tutsi, parce que parfois on a tendance à confondre les deux. Mmh. Enfin, et c'est ce que les gens ne savent pas, le major Moïmundu avait des liens familiaux avec le lieutenant-colonel Edouard Chimilimana, qui a déserté de l'armée et qui est le chef d'état-major général des rebelles du Forebu, qui ont revendiqué l'assassinat du lieutenant-colonel. Mmh. D'où donc beaucoup tirent la conclusion que, eh bien, voilà.
Est-ce qu'on peut s'attendre tout de même à des représailles dans les prochains jours, les prochaines semaines, Esdras?
Bon, des représailles, pas nécessairement. En fait, des représailles liées aux deux assassinats, pas nécessairement. Mais personne au Burundi, surtout dans les cercles du pouvoir, ne se fait plus d'illusions. Un haut responsable de l'armée me disait il y a quelques jours que les mouvements armés avaient opté très clairement pour l'assassinat de haut responsable burundais. Donc tout sort donc sur ça désormais dans le collimateur, ce qui bien sûr a des conséquences en matière de sécurité. Alors le pouvoir pourrait tenter de le faire, mais tout cela pourrait diviser encore un peu plus l'armée burundaise qui est déjà divisée. Et donc on est dans une période un peu d'attente sans savoir exactement ce qui va se passer.
À suivre donc. Merci beaucoup Esdras Dikoumana d'avoir été avec nous ce matin. Baptista, bonne journée. Journée au Bénin. D'autres questions à la rédaction, évidemment, demain. Et d'ici là, vous nous appelez. Le standard reste ouvert tout au long de la journée. 33 9 693 693 70. Vos questions également sur les réseaux sociaux, sans oublier de nous indiquer en message privé votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler. Car le principe de cette émission, vous le connaissez, c'est de vous entendre et de vous donner, évidemment, la parole sur RFI. C'est ce que nous ferons. D'ailleurs, dans 10 minutes, nous parlerons ensemble des déboires de Jacob Zuma, le président de l'Afrique du Sud, accusé de ne pas avoir respecté la Constitution.